voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
C'était le maître des apparences, du feu sous la glace, des jeux de miroir, l'inventeur aussi d'un fantastique particulier, peut-être le seul cinéaste au monde à avoir jamais arpenté les sous-bois du conte de terreur sans aucun recours aux effets spéciaux, gratter le réalisme, les soirées au coin du feu, les garden parties sous les tilleuls, les baignades ensoleillées, et vous découvrirez dans son œuvre la plus inquiétante galerie de personnages qui soit. Psychopathe, manipulateur, vierge folle, tueur en série, chacun enfermé à double tour dans sa folie singulière. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui dans tous les cinémas du monde, on vous parle de Claude Chabrol, disparu en septembre 2010 à l'âge de 80 ans. Claude Chabrol qui fut critique au Cahier du cinéma, devenu le porte-étendard de la nouvelle vague avec Les Cousins en 1958, un an avant À bout de souffle. Chabrol, c'était l'une des figures majeures du cinéma français, l'auteur d'une œuvre vaste, inégale, totalement hétérogène et totalement cohérente, d'une soixantaine de films. Il a laissé l'image d'un bon vivant, gourmand, gourmet, rieur, bonhomme. Mais ceux qui l'ont bien connu décrivaient un tout autre homme, secret, pudique, un tiroir à double fond, hein, disait de lui Bernadette Lafont, qui fut la première Chabrol girl. Si Chabrol, je la cite, hein, si Chabrol était un chat, il mourrait tout seul au fond du jardin. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, vous lui consacrez à Claude Chabrol une somme impressionnante après Truffaut, Godard et Romère, hein, ses compères de la nouvelle vague. On a l'impression qu'il y a un besoin particulier à travailler sur Claude Chabrol parce que c'était une figure, je le disais, très aimée du public français, mais en fait son œuvre reste finalement assez sous-estimée.
Absolument. Je pense que Chabrol n'est pas mis à sa juste valeur. D'ailleurs, il n'appartient pas en fait au panthéon, je dirais au panthéon du cinéma français. Il n'a eu aucun César, par exemple. C'est quand même assez étonnant.
Aucun prix à Cannes.
Aucun prix à Cannes. Disons des prix personnels. C'est-à-dire que, par contre, ses actrices ont eu énormément de prix, ce qui est la récompense d'un choix et d'un savoir de metteur en scène et de directeur d'acteur, d'actrice en l'occurrence, mais lui-même et voilà. Alors ça ne le gênait pas énormément, hein. Il en avait pris son parti. Chabrol n'aimait pas les honneurs, hein. Il a toujours refusé toutes les décorations qu'on a pu lui proposer. Il a toujours été très réticent, même à arpenter les compétitions, hein, où il faisait même mettre pendant longtemps dans ses contrats le fait que son film ne serait pas présenté au Festival de Cannes. Voilà, il avait comme ça conçu une sorte de sarcasme assez virulent à l'égard de tous les pouvoirs et notamment ceux de la profession, sans parler du pouvoir politique.
Mais est-ce que cette méconnaissance de la qualité, on va dire, presque esthétique, hein, de son œuvre, n'est pas liée ou n'est pas inversement proportionnelle au succès de ses films, parce qu'ils ont rencontré un immense succès en salle.
Alors oui, par ailleurs, les films de Chabrol ont réuni, je dirais, au présent, hein, à peu près 50 millions de spectateurs, donc voilà, c'est pas rien, et ils sont peu nombreux, les cinéastes en France, à pouvoir afficher cela, tout en restant des films absolument personnels, hein, ce qu'on pourrait dire des films d'auteur. Moi, je dirais que ça joue évidemment, hein, dans le palmarès, notamment de la critique. On paye souvent, les cinéastes payent leur succès, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui a joué sûrement contre Chabrol aussi, c'est, je pense, sa méthode même, c'est-à-dire son désir absolument forcené d'enchaîner les films, hein. 57 films en moins de 50 ans, c'est quelque chose de d'assez phénoménal. Là aussi, on compte sur les doigts de la main les cinéastes qui peuvent avoir été aussi actifs. Et c'est vraiment quelque chose qui faisait partie du système de Chabrol. C'est-à-dire, tourner était ce qu'il aimait le plus au monde. Et il a tout organisé dans son existence et dans sa vie professionnelle pour tourner le plus possible, y compris accepter des commandes de films dont il savait assez pertinemment qu'ils allaient être des catastrophes. Mais à chaque fois, il trouvait quand même l'intérêt, comme il le disait, de faire ses gammes. Voilà. Et donc, bien sûr, sur 57 films, il y a une filmographie qui est relativement inégale, aussi très cohérente, hein, comme vous l'avez dit, Elisabeth. Mais c'est quelque chose qui ne joue pas, je dirais, en faveur de Chabrol. Ce n'est pas un cinéaste qui vise le chef-d'œuvre. Voilà. Et ça, je pense que là aussi, la profession lui fait payer un petit peu ça, hein, cette idée, cette sorte de désinvolture par rapport à la grande forme. Ce sont des choses comme ça qui ne fonctionnent pas avec la récompense.
De désinvolture sans doute affichée aussi, parce qu'il y avait une bonne partie. Voilà, il avait construit aussi sa figure publique. Alors il faut beaucoup gratter pour découvrir le vrai Chabrol. Vous, Antoine Debecq, vous parlez des trois masques de Chabrol, son masque public justement, et puis à côté le Chabrol intime et le Chabrol cinéaste. Alors pour commencer cette émission, on va entendre sa voix inimitable. Donc il est au micro de Catherine Ruel sur RFI. On l'écoute et ensuite Antoine, vous nous direz à quel masque il faut le relier.
Ben, c'est-à-dire que un type qui dit qu'il est poète, hein, moi je m'en méfie un peu. Je crois que les autres peuvent dire s'il est poète. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il fait des rimes, lui. C'est qu'il écrit des poèmes, mais il n'est pas sûr qu'il soit poète. Je crois qu'on fait un film... le fait de le faire est déjà un métier. Bon. Alors, que ce soit un film d'auteur ou pas un film d'auteur, je crois que c'est secondaire. Finalement, c'est les gens qui voient les choses, qui disent s'ils voient des récurrents. En général, on traite d'auteur le type qui se répète. C'est vrai qu'il y a description d'un univers qui vous appartient en propre et ratata. Mais moi, on a pu me trouver des récurrences aussi. Mais je veux dire, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Moi, je me suis toujours considéré comme voulant sauver le monde de son marasme en racontant son histoire des origines à nos jours.
Il y a beaucoup de coquetterie, hein, quand même.
Il y a beaucoup de construction. C'est-à-dire que, et donc, c'est vrai que c'est un homme qui présente des masques et qui, donc ici, on reconnaît très bien le rire de Chabrol, hein, cette sorte d'ironie permanente, aussi bien sur le monde, sur les autres que sur lui-même, hein, ça englobe tout et qui est une partie du personnage, hein, c'est sûr, ce personnage public. Qu'il a construit très tôt, hein. Et je pense que Chabrol, c'est un petit peu pareil. Oui, il a construit ce personnage de gourmand,
de bon vivant, qui choisit ses lieux de tournage en fonction des restos.
Voilà, bah, tout ça, ça permet à ce que on lui pose toujours les mêmes questions. Il répond toujours de la même manière et de façon extrêmement drôle et brillante. Hein. Et on ne parle pas à Chabrol de ses récurrences, hein, précisément, qui ponctuent son cinéma et qui disent des choses souvent très profondes, on creuse et en fait il y a effectivement ces masques, il y a ces personnalités sur lesquelles Chabrol joue, mais en même temps il n'y a rien derrière, il n'y a pas de secret.
Alors malgré cette désinvolture, hein, dont vous parliez, Antoine Debecq, Chabrol, il a été le premier en tout. C'est-à-dire que c'est Le Beau-Serge et les Cousins sortent en 1959, donc à un mois d'écart, je crois que c'est février et mars, et vous écrivez en fait qu'il y a une véritable folie médiatique autour de lui.
C'est
donc
vrai.
En fait, de la nouvelle vague, c'est le premier qui apparaît.
Absolument, c'est le pionnier en cela qu'il est celui qui à la fois est le premier à passer à la réalisation de longs métrages et de façon complètement autodidacte, hein, puisqu'il n'a jamais tourné à un court métrage, il n'a jamais fait une école de cinéma.
D'ailleurs, il dira d'une façon très provocatrice, on peut devenir cinéaste en 4 heures.
Voilà, tout ce qu'il faut savoir pour devenir cinéaste, on peut l'apprendre en 4 heures. Et puis, bon, il y a des anecdotes fameuses où, qui ont d'ailleurs été relayées par Chabrol, où la première fois qu'il met l'œil à l'œilleton de la caméra, en fait, il regarde dans un boulon, et donc il ne voit rien. Et son chef opérateur, Henri Decaa, évidemment, se gausse et se moque de lui. Mais ça l'empêche pas de tourner en des temps comme ça. Purement pas formé, hein, de tourner Le Beau Serge et les Cousins, presque dans la foulée, le premier effectivement à sortir ses films de façon un peu folle, une sorte de folle ambition comme ça, qui le fait sortir à un mois de distance. C'est, tous les attachés de presse vous diront que c'est une aberration. Deux films, Le Beau Serge en février 59 et effectivement Les Cousins en mars 59, qui vont être une révélation et qui vont lancer... et Chabrol et la nouvelle vague, c'est-à-dire que effectivement médiatiquement voilà, l'opinion découvre qui est Chabrol immédiatement, ce personnage public, il le construit tout de suite, il est partout. Et voilà, il raconte comment tout ça est pour lui une sorte de divine surprise et de terreur aussi absolue.
Mais en même temps, il a une sorte de confiance en lui absolue. C'est-à-dire qu'après Le Beau Serge, donc il n'est pas encore sorti en salle, hein, dont on ne sait pas encore que ça va être un immense succès, il se lance dans ce projet qui est très ambitieux, donc qui est... On pourrait le raconter en disant c'est une fable, hein, sur le thème du rat des villes et du rat des champs. Donc Charles, Gérard Blin, vient étudier à Paris où il est reçu par son cousin Paul, Jean-Claude Brialy. Donc après les froideurs de l'hiver creusois, Chabrol met le cap sur la jeunesse dorée de l'après-guerre et les beaux quartiers, hein, de la banlieue parisienne. Mais pour l'heure, on entre dans une librairie.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors que puis-je pour vous monsieur?
Rien, je passais simplement voir.
Les originales, les nouveautés?
Je ne suis pas collectionneur.
Les policiers?
Non, je ne les aime pas trop.
Ah bah, vous m'en voyez ravi.
Alors, que voulez-vous?
Je pencherai assez pour un Balzac.
Vous êtes provincial?
Ça se voit.
Non, pas trop, mais lire Balzac à votre âge, ça sent sa province, excusez-moi. Balzac.
Pardon. Et les autres, qu'est-ce qu'ils lisent?
Ah, des policiers, oui, la bande d'à côté ne m'achète que des policiers. Oui, Alain, j'ai voulu donner le père Goriot, c'est tout juste s'il me l'a pas flanqué à la figure. Ouais, les policiers, et puis les pornos. Ah, ils prétendent qu'ils ont besoin de se détendre.
Vous avez l'air désespéré.
Ah, il y a de quoi, monsieur? Il y a tellement de choses à lire qu'une vie entière n'y suffit pas. Et les voir perdre leur temps comme ça, moi, ça me... Ah,
là, vous avez raison. Je viens de passer 10 ans de ma vie à lire, et bien je trouve ça très agréable.
Ben voyons, mais je leur dis, lisez Dostoïevski, il y a là-dedans tout ce qui vous tracasse. Ben ils me répondent qu'ils ne sont pas tracassés.
Vous avez l'air bien amer.
Ben il y a de quoi, monsieur. Quand il n'y a plus que la province pour acheter Balzac. Et encore quand je dis acheter, je m'entends, parce que votre Balzac, je vais vous le donner. Allez, choisissez, si vous m'êtes sympathique.
Écoutez, vous êtes très aimable, mais je peux le payer.
Ah, pourquoi faire? Je me rattraperai sur les gogos, allez. D'ailleurs, ce que me rapporte Balzac est si infime et mon désir de vous faire plaisir si grand que je fais encore une bonne affaire. Allez, choisissez.
Bah écoutez, non, vraiment, je...
Allez, Les Illusions Perdues, vous les avez lues?
Non.
Alors, volez-les-moi. Allez, je ne regarde pas. Hein? Allez, dépêchez-vous.
Vous êtes un drôle de libraire. Vous finirez sur la paille.
Ah, il n'y a pas de danger, allez.
Alors, on vient d'entendre un extrait des Cousins, donc film de 1959. C'est le deuxième long-métrage de Chabrol, avec cette réplique inoubliable qu'on vient d'entendre. Lire Balzac à votre âge, ça sent la province. Donc Chabrol a écrit le film avec Jégoff. Donc toute la partie, c'est un film très cruel, très sardonique, très différent, assez à part dans l'œuvre de Chabrol. Et déjà, c'est étonnant parce que le couple Chabrol-Jégoff reproduit, enfin préfigure un peu ce rat des villes et ce rat des champs qui sera incarné à l'écran par Blin et Brialy, c'est-à-dire Blin le gentil, un peu naïf, provincial, et puis Brialy
le dandy,
la créature machiavélique. Voilà. Donc déjà le thème du double si cher à Chabrol, il apparaît à la fois devant la caméra et derrière.
C'est vrai que Les Cousins est un film qui dit beaucoup de la psyché et du caractère de Chabrol et aussi du couple qu'il forme avec Paul Jégoff. Donc Paul Jégoff qu'il a rencontré très tôt en cinéphilie, hein, une dizaine d'années auparavant, autour d'Éric Rohmer, ce groupe des Cahiers du cinéma.
Il faut préciser pour les auditeurs de RFI que, en fait, Chabrol, tout au long de sa carrière, va garder quasiment les mêmes prénoms. Et Paul, ce sera toujours le méchant.
Voilà, il y a ce Paul donc, qui vient directement de son scénariste Jégoff.
Et les gentils seront les Charles.
Les Charles et les femmes seront les Hélènes. Donc oui, ça, c'est une des cohérences et des récurrences fortes de Chabrol d'ailleurs, cela. Le couple à la fois complémentaire, maudit, maléfique, est quelque chose qui hante le cinéma de Chabrol et je pense qu'il vient assez directement du couple qu'il formait avec Jégoff. Il faut savoir que Jégoff était un personnage extrêmement, à la fois très attachant et très sulfureux, hein, qui était dans la provocation permanente.
Sulfureux, y compris d'une façon dans ses amitiés politiques.
Ah, absolument, c'était quelqu'un
sa faiblesse pour les nazis,
qui affichait des opinions politiques d'extrême droite. Donc, voilà, Chabrol s'appuie sur Jégoff pour créer des personnages, créer des univers qui sont aussi en complet décalage avec cette société du temps qu'il veut pourtant regarder de façon extrêmement directe, extrêmement crue. Donc il y a dans ce
le
couple...
Le fameux regard de l'aquarium, hein, on aura l'occasion de reparler, Antoine
dont,
de Beck.
Dont Chabrol est toujours accroché à cette idée, hein, d'être à la fois une sorte de Balzac de son temps, hein, voilà, de croquer sociologiquement même la société de son temps, et en même temps de pouvoir regarder cela avec un regard de biais qui n'est absolument pas moral.
On fait une pause musicale et un saut dans le temps avec Michel Jonas et la BO de Betty, un des sommets, hein, de l'œuvre de Chabrol en 1992.
Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, mon numéro d'appel aux abonnés absents, mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3,50 francs. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone, et sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil. Et la rue était comme une photo qui tremble. Si c'est toi qui passes le jour où je me promène, si c'est vraiment toi, je vois déjà la scène. Moi je te regarde et tu me regardes. Je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps. Ce
Antoine Debecq, tout à l'heure on parlait des cousins positifs. La revue Positif avait écrit, avait dénoncé la misogynie militante des cousins, ce qui est vrai d'ailleurs. Et Chabrol, en revanche, hein, et au fil de l'évolution de son œuvre, va devenir un des plus grands portraitistes de femmes du cinéma français. Donc ici, évidemment, dans Betty avec Marie Trintignant. Alors c'est vrai que souvent on parle du Chabrol grinçant, ricanant, du Chabrol qui parfois tend même vers le grand guignol. Mais il y a un côté Chabrol fleur bleue.
Voilà, il va s'ouvrir à l'émotion et je dirais, il va s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler, bon c'est peut-être un peu un cliché, mais au féminin.
Et voilà. On aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'heure, je voudrais vous faire entendre, Antoine Debecq, un extrait d'un film de 1970. Donc 70, Chabrol a 10 ans de carrière, il a peint des manipulatrices, des nymphomanes, des hommes violents, des beaufs, des nasillons, des fils à papa. Qu'est-ce qui lui manque? Un psychopathe. Et qui pour le jouer? Jean-Yann, bien sûr.
Moi, c'est ce qu'il y a de marrant, c'est que... comme j'étais bouché avec mon père, quand je suis arrivé à l'armée, ils m'ont collé à l'ordinaire. Et j'ai toujours été bouché. Et bouché pour l'armée, en Indochine, en Algérie, à Mourmelon. J'étais bouché. Vous êtes jeune pour être directrice?
C'est parce que je suis très sage. Vous êtes sourd?
C'est Riri qui me raconte que son père lui a dit que le facteur de Saint-Albert a dit qu'on a trouvé une morte dans un bois.
Qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est vrai, on a prévenu les gendarmes.
Parce qu'il y a eu un crime à Saint-Albert.
Un crime? On a trouvé la fille Gaillotin tuée ce matin à coups de couteau.
Mon Dieu, mais qui a pu faire ça?
Entrez, entrez.
Vous ne
me dérangez pas.
Je sais bien que c'est pas réglé. Mais si ça vous embête, faut venir.
Ça n'aurait pas du tout, c'est pas.
Vous avez mis un petit gigot?
Oh, c'est gentil.
Vous avez vu, il y a eu les gendarmes et un policier toute la journée dans le village.
Mais
ils cherchent partout, puis ils trouvent rien.
Combien il pèse votre gigot?
800 grammes, vous laissez une demi-heure au four, ça suffit.
Pas d'ail.
Oh, jamais d'ail dans l'agneau. Oh là là.
La rencontre entre le boucher Jean-Yann et l'institutrice Stéphane Audran, hein, dans Le Boucher, film de 1970, c'est un sommet chabrolien. C'est l'un des films qui font partie de ce que vous appelez, Antoine Debecq, la maturité heureuse. Le film est complètement mu par ce grand thème de Chabrol, c'est-à-dire la contradiction entre la pulsion et la loi.
Oui, oui, c'est vrai que c'est un... On peut parler de chef-d'œuvre pour Le Boucher. C'est d'ailleurs un des rares films de Chabrol qui a été unanimement reçu. Hein. On peut dire qu'il y a deux grands films de Chabrol qui ont été... alors que Chabrol pensait que ça allait être des catastrophes, en fait, hein, reçues à la fois par le public et par la critique, c'est d'abord Le Boucher, ensuite La Cérémonie. Et ce sont tous les, à chaque fois des films qui sont d'une violence assez, voilà, des déchaînements de violence quand même assez extrêmement puissants, extrêmement malaisants. Et donc, oui, dans le Boucher, il y a cette contradiction entre cet homme dont on sent affleurer toutes les pulsions, y compris les plus violentes, c'est donc un criminel, et cette douceur qu'il peut avoir et qui, avec celle qu'il aime, d'abord secrètement, puis moins secrètement, voilà, joué par Stéphane Audran. Et oui, Chabrol va enchaîner comme ça, au début, fin des années 60, début des années 70, une demi-douzaine de grands films. Il faut dire qu'il était voilà, dans un moment où tout d'un coup...
il avait trouvé son producteur,
voilà, ça,
il avait trouvé son actrice, bien sûr, Stéphane Audran. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'en fait, c'est Stéphane Audran qui avait demandé à ce que ce soit Jean-Yann qui joue le boucher, parce qu'elle avait trouvé exceptionnel dans Que la bête meure.
Voilà,
donc il a constitué sa... Pardon de vous couper la parole, mais il a constitué un peu sa troupe idéale à ce moment-là.
Oui, ça c'est aussi une des récurrences de Chabrol, de s'entourer de façon extrêmement fidèle tous les techniciens, par exemple, étaient toujours les mêmes. Hein, son chef opérateur, Jean Rabier, voilà, et, par exemple, qui revient de film en film hein, pendant 30 ans.
Vous dites même que vous écrivez Antoine Debecq qui ne il va même pas voir les décors, les costumes. C'est incroyable. Hein, il laisse faire et limite, il aime bien le défi que ça constitue de s'adapter, en fait, de trouver des solutions sur le moment.
Ça, c'est ce qui amusait le plus Chabrol, en fait. L'espèce de contrainte qui devient une invention, une création, qui est retournée par Chabrol en un principe de mise en scène.
Alors, 10 ans plus tard, dans les années 80, une petite dernière entre dans la grande famille des héroïnes de Chabrol. Donc, elle a été déjà la criminelle Violette Nozière. Plus tard, il la fera danser dans Emma Bovary, délirer dans La Cérémonie ou encore cuisiner les accusés comme un chat joue avec la souris dans L'Ivresse du pouvoir. On en reparlera avec vous, Antoine Debecq. Mais pour l'heure, je vous propose une petite partie de Jean Branleur. Bien sûr, un extrait d'une affaire de femme, donc film de 1988. Hein, là aussi, c'est un chef-d'œuvre de Chabrol. Donc, pendant l'occupation, c'est l'histoire de cette mère de famille sans argent, hein, jouée par Isabelle Huppert. On l'a entendu, elle s'improvise faiseuse d'ange. Et donc, en pratiquant ses avortements d'une façon un peu presque par hasard au début, elle s'aperçoit qu'en fait, elle peut gagner beaucoup d'argent, transformer sa vie. Et dans la scène qu'on vient d'entendre, alors il y a deux hommes, hein, il y a l'amant et le fils, et presque un timing burlesque.
C'est vrai que Chabrol a toujours aimé la farce. Hein. C'est quelque chose qui parcourt une autre récurrence de son cinéma. Et c'est ça qui donne au personnage, évidemment, cette épaisseur, cette consistance. Ce n'est pas un personnage qui n'est là que pour incarner une idée ou un acte, mais qui est là pour à la fois faire ce qu'elle a à faire et en même temps à vivre comme elle l'entend. Et c'est voilà cette sorte de liberté, en fait, que prend le personnage grâce à ce regard que Chabrol peut porter sur lui.
Et je disais que Isabelle Huppert, à ce moment-là, elle rejoint la grande famille des héroïnes de Chabrol, donc bien sûr Bernadette Lafont et Stéphane Audran, plus tard Marie Trintignant dans Betty, même Ludivine Sagnier dans La fille coupée en deux. Ce serait quoi le point commun entre toutes ces héroïnes ? C'est un certain oubli de soi, c'est un côté un peu comme une mécanique folle qui peut justement s'enrayer.
Je pense que vous dites tout à fait justement ce qui intéressait Chabrol chez toutes ces actrices. Hein. C'est cette façon voilà, d'être à l'intérieur d'une forme de presque d'impassibilité hein, ou au contraire d'expressivité, de joie, d'avoir tout un monde caché, un monde secret qui, voilà, qu'on sent de façon très, très forte dès qu'elles apparaissent à l'écran.
Et pour le coup, on a souvent tendance à dire un peu trop vite Chabrol féministe au sens où il aurait fait des grands portraits de femmes, bon, ce qui est un peu le lot de tous les grands ou presque cinéastes. Mais là, en l'occurrence, c'est un film qui est réellement féministe et qui est même un peu unique en son genre dans les années 80, c'est-à-dire que l'histoire de l'héroïne, au début, elle est presque uniquement entourée de femmes, et peu à peu, plus elle s'approche de la guillotine, en fait, et on s'aperçoit que les hommes apparaissent à ce moment-là dans le film, et c'est complètement glaçant.
Oui, c'est complètement, voilà, une... Non pas une dénonciation, mais une sorte de radio, comme ça, d'enregistrement du pouvoir viril et du pouvoir politique.
Il y a celles qui font, voilà. Et puis il y a ceux qui jugent.
Voilà,
et celles qui font sont des femmes, et ceux qui jugent sont des hommes.
Voilà.
Et c'est vraiment glaçant. Et là, c'est un vrai point de vue de Chabrol.
C'est un vrai point de vue de Chabrol qu'il va qui est tout à fait explicite dans ce film particulier, mais qui va être, je pense, le point de vue que Chabrol va adopter de plus en plus ouvertement en travaillant avec ses actrices, mais aussi en travaillant avec des femmes scénaristes. Hein, ça, c'est quelque chose de très important.
Odile Barsky,
Caroline Eliachef. Voilà, ce sont des fortes personnalités féminines, féministes, et qui marque évidemment une rupture très forte dans le parcours de Chabrol. Voilà, à un moment il a rompu avec Paul Jégoff, très façon.
C'est clair que passer de Paul Jégoff à Caroline Eliachef, ça doit faire un drôle de
voilà. Il n'y a pas moins d'acuité de côté acerbe. Et donc sa femme réelle, Aurore Chabrol, qui est sa script sur les 40 dernières années de son travail, dit même que le vrai fantasme de Chabrol, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'être une femme qui a des couilles, hein, comme elle dit, de façon un peu imagée. Et je pense que c'est quelque chose de très juste, hein, cette sorte de fantasme de la femme puissante, de la femme castratrice, hein, qui est complètement, je dirais, assimilée par Chabrol, qui est pourtant un homme et qui est sans ambiguïté un homme. Hein, donc...
Alors, on va encore parler d'un couple de femmes. Hein. Il y en a eu tellement chez Chabrol, mais peu ont autant marqué que le couple Bonnaire-Huppert de La Cérémonie, donc un scénario lointainement inspiré des Bonnes de Genet. Dans le Chabrol, Bonnaire est la bonne d'une famille bourgeoise, les Lelièvre. Hein. On pourra parler de ce sens du nom propre à Chabrol. Et Huppert, face à elle, est la postière du village. Donc un jour, profitant des vacances des Lelièvre, Huppert se fait inviter dans leur magnifique villa. C'est La Cérémonie, en 1995.
Je vous dérange pas ?
Non.
Il y a une carte qui est arrivée pour vous. Quand je passe par là, je vous la porte.
Je vais vous ouvrir la porte.
Oh, pensez-vous ?
Mais vous avez une voiture ?
Ah, je veux. Elle est pas toute jeune, mais tient encore le coup. Tenez.
De toute façon, j'ai pas mes lunettes.
Ah ben, je vais vous la lire si c'est pas indiscret.
Oui.
On passe des vacances formidables, on pourrait presque se baigner. On pense à vous, Mélinda. Ouais. Moi, je prends pas de vacances. J'aime pas. En plus, la Corse, il paraît que c'est dangereux, ça saute tout le temps. Il y a même des pirates.
Des pirates ?
Ben oui, des mecs qui font sauter les bateaux. Dites donc, ça a l'air vraiment grand ici. Voilà, vous devez avoir un sacré travail. Hein.
Oui.
Un extrait de La Cérémonie, donc de 1995. Là encore, on est vraiment sur le très haut du panier de l'œuvre chabrolienne. Alors, on parle toujours des repas chez Chabrol. Et effectivement, ils sont nombreux, variés, toujours assez copieux. Mais on parle rarement de la télé. Alors que la télé a un rôle vraiment important et d'ailleurs tout va un peu se jouer, sans déflorer le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais tout va se jouer devant la télé.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose aussi que Chabrol...
Ça c'est le thème mabusien, landien par excellence.
Oui, à la fois le thème mabusien et puis son côté aussi d'amour pour... presque le commun, hein. Pour lui la télévision, c'est quelque chose qui est toujours allumé d'abord, hein, chez lui,
le commun et le coma, si je puis me permettre, parce que la télé permet aussi cette forme d'hypnose, de rêve éveillé qu'il adore.
Oui, c'est comme si il y avait une vie avec quelque chose qui existe et en même temps qui n'existe pas. C'est vraiment une sorte de présence non présente. C'est précisément par ce que regardent les gens, et ces gens très différents à la télévision, qui vont que l'action, que l'intrigue, que la violence va se déchaîner. Et donc la télévision,
et que la distinction de classe aussi s'opère, puisque les pauvres et les riches, la bonne et les patrons ne voient pas du tout les mêmes programmes.
Mais en même temps, ces programmes finissent par, en quelque sorte, infuser l'un dans l'autre. Et ce qui infuse, c'est précisément l'immense violence de La Cérémonie. Hein, je pense que c'est un film qui... Moi, personnellement, c'est un des films les plus violents qui existent dans l'histoire du cinéma.
Et est-ce qu'il est message à Brol, parce qu'on a dû le lui dire 2000 fois qu'il était le peintre idéal des Trente Glorieuses, cinéaste de la bourgeoisie, etc. C'était quelque chose qu'il revendiquait, qu'il acceptait, ou au contraire contraire, il avait de la distance aussi par rapport à ça.
Il le revendiquait d'une certaine manière. Voilà, il s'est toujours dit une sorte de chroniqueur social. Et donc, voilà, il avait lui-même un mode de vie bourgeois absolument confortable et qu'il aimait et qu'il revendiquait. Bon, il l'a dit de façon très... très ironique et très joyeuse et un peu provocatrice comme il l'était. Hein. Voilà, je vote communiste à Neuilly. Hein. C'est tout à fait quelque chose qui ressemble à ce que Chabrol a pu filmer dans ses films.
Et d'ailleurs, il disait que la cérémonie était le dernier, avec beaucoup d'ironie, on imagine que la cérémonie était le dernier film marxiste. Merci beaucoup, Antoine Debecq. Alors, on voulait passer un extrait de L'ivresse du pouvoir, mais l'heure file trop vite avec vous. Peut-être juste une dernière question. Aujourd'hui, peu de cinéastes s'inspire ou disent s'inspirer de Chabrol. Est-ce que ça veut dire que finalement il n'a pas eu une descendance si importante?
Alors je pense que Chabrol est à redécouvrir.
C'est clair.
Je pense que c'est pas fini, que Chabrol n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, il est dans une sorte d'un peu de purgatoire. Il n'est pas aussi cité que Romère, que Godard, que Truffaut même. Mais sa descendance, je pense, se construit aussi parce que les formes que prennent le cinéma français aujourd'hui sont des formes dans lesquelles Chabrol aurait été très à l'aise. Notamment, je pense à la série. Hein. C'est quelque chose que Chabrol a fait des séries pour la télévision, mais il aurait été un homme qui aurait aimé travailler pour cela. Et bon, il y a quelques cinéastes qui sont des Chabroliens purs et durs. Moi, mon préféré, c'est Nicolas Parizère. Hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement Chabrol et pour qui Chabrol a été très important dans la constitution de son propre cinéma. Ouais. Et donc, je pense qu'il y en aura de plus en plus.
Et vous parlez de Bong Joon-ho, qui a quand même reçu la Palme d'Or pour voilà. Parasite et qui cite Chabrol.
Par ailleurs, James Gray, Bong Joon-ho sont des admirateurs, ou Fassbinder autrement. Fois étaient des admirateurs inconditionnels de l'œuvre de Chabrol. Et donc ça, c'est quelque chose qui, là aussi, marque. Hein. C'est vrai que, voilà, regardez ceux qui aiment mon cinéma et vous saurez qui je suis.
Chabrol n'a pas dit son dernier mot, voilà, ouf. Merci Antoine Debecq, votre somme sur Claude Chabrol est disponible dans toutes les bonnes librairies. En toute simplicité, ça s'appelle Chabrol et c'est édité chez Stock. Et comme on sait que vous avez un emploi du temps très chargé, puisque c'est la saison des soutenances de thèse, au revoir, à bientôt et merci.
Merci.
Dans deux minutes, le journal du cinéma, mais avant, place à Joséphine Baker. Joséphine Baker, dont on a beaucoup parlé cette semaine après son entrée au Panthéon à Paris.
On décore l'or des mers, là-bas sur le ciel clair. Il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Paris. tout entier. Le voir un jour.
Et maintenant, c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Sophie Torlotin, le journal du cinéma qui commence au Canada.
Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble.
Il était risqué, le pari de Valérie Lemercier, de faire un vrai faux biopic du Trésor national canadien, Céline Dion. Hein, on a reconnu là peut-être la bande-annonce de son film Aline. Donc c'est un hommage dans lequel elle incarne Valérie Lemercier, la star québécoise à tous les âges, y compris les plus tendres. Et ce film vient de sortir en salle au Québec, un film attendu au tournant, vous pouvez l'imaginer, d'autant que certains membres de la famille de Céline Dion se sont indignés de certaines séquences et représentations.
Et alors ?
Eh bien, dès le premier week-end d'exploitation et sur un marché quand même très bas, Aline s'est hissée à la troisième place du box-office canadien, derrière deux blockbusters américains, Encanto et Ghostbusters.
Ah, mais donc c'est très très bien.
C'est pas mal. Bon, c'est pas non plus fou, mais c'est pas mal. Le coproducteur québécois du film trouve que ce sont des premiers retours encourageants. Et je signale qu'en France, Aline dépasse déjà le million d'entrées et s'inscrit dans les succès de l'année.
En Inde, une série Netflix qui aligne les stars de Bollywood comme Rajat Kapoor et Soni Razdan.
La série s'intitule Call My Agent Bollywood et est centrée sur quatre agents de stars dont les contrats doivent à tout prix être conservés au sein de leur agence qui est chamboulée par la mort soudaine du vieux patron. Ça ne vous rappelle rien ?
Bah si, ça me rappelle 10%, la série créée par Dominique Besnéa.
Et tout juste, le concept de la série d'origine a récompensé il y a quelques jours aux International Emmy Awards. Eh bien, ce concept cartonne dans le monde entier puisque pas moins de 20 spin-offs, donc des séries dérivées des contrats, donc, ont été signés dans le monde.
Une crypto-monnaie maintenant pour financer le cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie ?
C'est une monnaie virtuelle.
Oui, comme le Bitcoin.
Et c'est Sarah Lelouch, la fille de Claude Lelouch, qui vient donc de lancer le Clapcoin, donc cet actif dématérialisé, adossé à la manière du Bitcoin à la blockchain. Bon, demandez pas trop, là, mes compétences technologiques s'arrêtent là. Cette monnaie virtuelle devrait permettre à des milliers d'utilisateurs d'aider au financement de films et de séries. Sarah Lelouch, en fait, elle crée une sorte de start-up. Hein. Elle vient de créer cette société dédiée à ce projet et elle espère une première levée de fonds de 2 à 8 millions d'euros en 3 mois.
Et on termine ce journal du cinéma en Chine avec notre correspondant permanent Stéphane Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Lagarde, c'est en Chine qu'il va falloir chercher le plus gros succès du cinéma cette année. Le film s'appelle « La bataille du lac Changjin » et ça fait un carton depuis la rentrée. Je précise que c'est un film patriotique sur la guerre de Corée et qui donc bat tous les records.
C'est ça, et on l'a compris dès la sortie du film pour la fête nationale le 1er octobre dernier, on ne trouvait plus un billet. Et la semaine dernière, donc le 24 novembre à 16h43, hein, c'est précis selon les médias d'État, record absolu avec près de 5,7 milliards de yuan, 790 millions d'euros au box-office. La bataille du lac Changjin, Changjin Rou en mandarin, est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma ici. C'est aussi le plus coûteux de l'histoire du cinéma chinois. Il a fallu se payer la signature de trois réalisateurs, pas moins, Chen Kaige, le chef de file des cinéastes de la cinquième génération, et deux vétérans du cinéma hongkongais, Tsui Hark et Dante Lam. Le tout avec beaucoup de monde à l'écran, dont Wu Jing, qui avait déjà joué l'un des rôles principaux dans Wolf Warrior, autre blockbuster. La bataille de Changjin raconte un tournant de la guerre de Corée, quand les troupes chinoises vont repousser les troupes de l'ONU. Une bataille à l'automne 1950 autour d'un réservoir d'eau naturelle à 4000 mètres d'altitude en Corée du Nord et à 80 km de la frontière chinoise. 17 jours de combat entre les soldats de Mao et un ennemi commandé par un lieutenant général américain qui a conduit donc les troupes de l'ONU à battre en retraite.
Donc c'est un film historique. historique, hein, c'est aussi, on le comprend, un film patriotique. Est-ce que ça pourrait, Stéphane, parler de la bataille d'aujourd'hui, une bataille commerciale, hein, bien entendu, entre les États-Unis et la Chine ?
Oui, il y a clairement un message derrière ce film écrit avec toute la subtilité d'un lance-roquette, nous disent nos confrères du Guardian. Le scénario raconte la supériorité morale des soldats chinois, imperturbables face aux bombes et à la mitraille de l'ennemi. La bataille du lac Changjin est aussi une bataille d'image, vous l'avez compris, dans le contexte des relations plus que tendues entre les deux premières économies du monde. Ce sont d'ailleurs les médias officiels qui le disent ici. Ce que Mao a appelé l'armée des volontaires chinois, tenue au milieu du froid féroce et des armes avancées de l'ennemi, raconte le Global Times, donc filiale du quotidien du peuple. On voit à l'écran des soldats américains manger de la dinde pendant que les Chinois se cassent les dents sur des pommes de terre gelées. Dans les commentaires sur le film, certains spectateurs se félicitent d'ailleurs que l'armée chinoise n'ait jamais eu peur des États-Unis. Dans le contexte des tensions avec Taïwan, l'idée c'est aussi de montrer la force du collectivisme pour combattre l'ennemi hors de ses frontières. Avec quelques raccourcis historiques inférieurs en équipement, les troupes chinoises étaient en réalité bien plus nombreuses que les renseignements alliés l'avaient prédit. Elles ont avancé de nuit, elles ont surpris leur adversaire pour aider l'allié nord-coréen à leur rendre des routes. 8000 soldats américains, britanniques et sud-coréens sont morts de froid. Les troupes chinoises ont encore plus souffert. Les deux camps se sont aussi battus donc pendant des semaines contre les éléments dans cette bataille.
我们被发现了吗？不，我不要进屋了。Move, move, move.
Mais du coup, Stéphane, le succès hein, du film, il est un peu inquiétant. Du coup, est-ce que ça veut dire que la Chine se croit en guerre ?
Alors c'est pas la guerre, mais on s'y prépare si on en croit la tonalité nationaliste de certains discours et ce que raconte la propagande. Une anecdote à ce sujet, c'est pas un film ça. Le mois dernier, les autorités ont laissé entendre qu'il serait bon de faire des réserves de nourriture pour cet hiver. On a été voir les gens au supermarché. Certains nous ont dit alors qu'ils pensaient que c'était en cas de guerre avec Taïwan. Donc vous voyez, on est dans cette ambiance et le film est aussi une commande d'État à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois. Comme souvent pour ces films patriotiques, les Danwei, les unités de travail, hein, comme on les appelle ici, donc les fonctionnaires, les entreprises publiques, mais aussi les groupes privés ont envoyé leurs employés au cinéma, sans parler des écoles. Alors, c'est pas tout non plus hein, tout lisse. Hein. Il y a eu des critiques. Il y a quelques jours, par exemple, pour l'anniversaire de la mort d'un des fils de Mao pendant la guerre de Corée, on a vu fleurir des images de riz sauté aux œufs sur les réseaux. Alors, pourquoi le riz sauté aux œufs ? Certains internautes farceurs affirment en effet que le héros serait mort après s'être préparé sa tambouille. Il a fumé ayant attiré les bombes ennemies. Bon, attention à ne pas trop critiquer en même temps ce film. Lorsqu'un journaliste a remis en question certains éléments historiques du scénario, il a été arrêté par la police au nom d'une nouvelle loi qui permet de poursuivre celles et ceux qui critiquent les martyrs de la patrie. Donc on a un soutien très appuyé des autorités, mais aussi un film en costume, un film d'action avec des gros moyens et un scénario qui fait la fierté d'une partie des spectateurs et pas que des nationalistes. Hein. Il y a aussi des scènes où l'on voit ces soldats prendre le train pour traverser toute la Chine et aller se battre loin de chez eux. La guerre de Corée reste donc un souvenir fort dans de nombreux foyers ici en Chine, ce qui explique peut-être aussi, en tout cas, ce record d'audience.
Merci Stéphane, on se quitte et on termine l'émission sur cette image des trains traversant la Chine pour emmener les soldats chinois à la bataille. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun pour son nouveau film, Lingui.